Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Cette semaine encore, nous sommes à Rodez, une terre rurale qui, enracinée depuis des siècles dans une profonde tradition chrétienne, a vu surgir de nombreuses vocations religieuses et sacerdotales. Depuis 50 ans, dit Mgr Fonlu, évêque de Rodez et de Vabre, le changement a été brutal, nous laissant quelque peu démunis dans des habits trop grands. Arrivé comme pasteur de ce diocèse en 2011, il a accompagné cette église dans une prise de conscience de ses bouleversements et de l'horizon nouveau dans lesquels elle est invitée à vivre la mission. Ses visites pastorales l'ont conduite à la convocation et à la célébration d'un synode diocésain dont les actes sont maintenant à recevoir et à mettre en œuvre. C'est ce que nous avons vu au cours des semaines précédentes avec notamment les maisons de vie. Aujourd'hui, en compagnie de Pascal Fournier, responsable de la communication du diocèse, et sur les pas de quelques grands témoins qui, dans l'ordinaire des jours, ont semé l'évangile sur cette terre, nous parcourons les rues de la vieille ville.
Donc, le marché du mercredi est un marché réduit, et le samedi c'est sur deux places, une troisième. Et ici on a les producteurs de pays. Non, les gens arrivent, alors pas encore avec les caisses et les poulets, mais vous l'étiez ici un petit peu, les pintades, les œufs, parfois.
Ouais, là, je vois producteur de melon. Ouais. Et comme vous disiez, Pascal, c'est un lieu de rencontre.
Bonjour.
Le marché, c'est une sortie, on n'y vient pas que pour acheter, on y vient pour prendre un peu la température de la ville, pour rencontrer des gens, pour passer du temps. Et c'est pas pour rien que les terrasses des cafés se remplissent. Alors, c'est le petit ballon de blanc, c'est le petit café, le croissant ou parfois le tripou, le petit déjeuner local, le tripou, le fameux tripou du Ségala, de Nocel.
Et non, c'est l'église Saint-Amand alors.
On arrive, ouais. On découvre le clocher de l'église Saint-Amand, qui est en grès rose, comme la cathédrale. Mais qui est beaucoup plus ancienne, hein, l'une des plus anciennes églises de la ville. Alors on va rentrer par le côté parce que je pense que le portail, le grand portail est fermé. Alors on vient de rentrer à Saint-Amand, la plus ancienne église de Rodez. Elle est en grès rose à l'extérieur, avec ses tons rouges, ses tons assez soutenus, assez sombres. Et quand on est à l'intérieur, on se croirait dans une église en calcaire. Les murs sont blancs, les piliers sont blancs, la pierre est blanche, rendant l'église finalement assez lumineuse. Alors, on a de gros doutes, hein, sur la chronologie et sur l'enchaînement des évêques pendant plusieurs siècles. Ce dont on est à peu près sûr, c'est qu'au IVe siècle arrive Amand. Il est nommé dans une terre rouergate déchristianisée. Finalement, l'histoire ne se répète pas, mais à quelques similitudes, comme ça ponctuellement, d'un siècle à l'autre. Donc il arrive, Amand arrive et il est nommé sur cette terre déchristianisée. Et il va peu à peu essayer de faire retrouver la foi aux Aveyronnais, aux Rouergats. Et donc cette église lui est dédiée. Donc c'est notre premier évêque, saint patron du diocèse. Alors là, pourquoi on est venu ici, derrière le chœur ? Parce que vous voyez un tableau. Un autel, un retable en bois, avec un tableau très sombre. La seule partie qui se distingue, c'est peut-être en bas à droite. On reconnaît ce qui peut être un évêque, hein, puisqu'il a une mitre. C'est bien Saint-Amand, c'est bien l'évêque Saint-Amand qui est représenté sur ce tableau. Et puis, posé sur l'autel, un buste reliquaire de Saint-Amand. C'est celui que tous les 4 novembre, nous portons en procession ici pour célébrer la fête de Saint-Amand. Alors ce tableau, je ne sais pas si vous distinguez un trou dans le tableau. C'est une serrure. En réalité, ce tableau, c'est un placard. Et derrière ce placard, il y a les reliques de Saint-Amand et de Saint-Dalmas, son premier diacre. Et pas n'importe quelle relique. Les crânes, en intégralité. Donc on a redécouvert, un peu par l'entêtement d'un prêtre, de l'ancien curé de la paroisse, qui a voulu gratter un petit peu et aller voir si réellement il y avait quelque chose derrière. Donc le reliquaire a été, enfin, ce tableau a été réouvert et on a ressorti, on a pu avoir ces crânes et attester qu'ils appartenaient bien à Saint-Amand et Saint-Dalmas.
Une première messe est célébrée dans l'une des chapelles de la cathédrale.
Mireille,
qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette cathédrale ? Quelle est votre histoire ? Vous avez une histoire personnelle avec ?
Bon, peut-être c'est elle qui nous a accueillis quand on est arrivé à Rodez. Voilà, parce qu'on n'est pas rutinois. Voilà, donc c'est un peu notre référence religieuse de notre vie. Voilà, donc ici, il s'est passé des moments très forts, donc c'est pour ça qu'on vient de temps en temps. Voilà.
Cette messe du matin, c'est un rendez-vous régulier pour vous ?
Régulier, pas tous les mercredis, mais quand je peux, oui, avec plaisir. Voilà, ça dépend un peu du travail. Voilà. Merci, oui.
Un moment, lorsque vous êtes là, qui est le point de départ d'une journée ?
Ah oui, ça c'est le point de départ, oui, ça change la journée. Oui. Alors, il faut se pousser, c'est vrai que des fois, il faut se lever un peu plus tôt, il faut organiser les choses, mais une fois qu'on est là, après, ben, la journée, elle est encore plus belle, oui.
Mais je l'aime beaucoup par son architecture, par sa grandeur. Voilà.
Et puis c'est notre cathédrale.
C'est notre, oui. Moi, je l'aime beaucoup. Oui. Après, je ne peux pas dire plus, je ne sais pas.
Vous avez vécu des grands moments ici, des moments de...
Il y a des grandes fêtes, il y a des grands rassemblements de tout le diocèse. C'est ce qui est important, on a vécu, c'est vrai, des...
Vous êtes de Rodez ?
Je suis de Rodez, oui.
Depuis très longtemps ?
Un peu.
Donc voilà. Cette cathédrale fait vraiment partie de votre vie ?
Oui.
Vous êtes chez vous ici ? Dans la cathédrale ?
Oui.
C'est comme votre maison ? Oui. Voilà. Oui. Voilà. Et cette messe du matin ?
Ah, moi, je tiens à la messe du matin. Oui. Je tiens, c'est la seule qu'il y a la journée. Et bon, ça aide à repartir dans la journée, quoi.
C'est le point de départ de votre journée ?
Oui.
De quelque direction que vous arriviez à Rodez, que vous soyez touriste ou pèlerin, vous vous retrouverez au pied de la monumentale cathédrale. De loin, vous ne verrez qu'elle. Elle est le siège de l'évêque et depuis plus de 1000 ans, signe d'une présence chrétienne. Sur le parvis, nous retrouvons Pascal Fournier. Il nous ouvre la porte, entrons avec lui.
Alors quand on rentre dans une cathédrale, en général, on rentre par le mur du fond. On rentre par le fond de la cathédrale. Le portail se situe dans le prolongement de la nef. À Rodez, ce n'est pas le cas. D'ailleurs, si vous êtes arrivé sur la place d'Armes, qui est devant la cathédrale, vous n'avez pas vu de portail. Et pour cause, parce que ce mur-là faisait partie intégrante des remparts. Donc à Rodez, on rentre sur le côté, au transept, par le portail nord ou le portail sud. Et quand on arrive, on se trouve dans une espèce de vaisseau, quelque chose d'assez gigantesque. La cathédrale, elle a commencé à être construite en 1277, fin du XIIIe siècle. Et son achèvement précis, c'est 1576. Donc la construction s'est étalée sur 3 siècles. Et au fur et à mesure, ce vaisseau, il s'est agrandi. On a commencé la construction par l'est, là-bas, sur la base d'une ancienne basilique romane. Et puis petit à petit, au fil des ans, on a ajouté des travées jusqu'à arriver aux remparts de la ville. Alors cette cathédrale, quand on arrive de Toulouse, on voit cette cathédrale de loin. Quand on arrive du nord, on voit cette cathédrale de loin. Quand on arrive de l'ouest, on la voit de loin de partout. Il fallait qu'elle soit visible. C'est quand même le signe, la présence de l'Église dans le diocèse. Elle a un clocher qui est monumental aussi, qui est détaché, qui culmine à 87 mètres. Lui aussi, il fallait qu'il soit imposant, très 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 travaillé. C'est le bienheureux François Destin, un évêque de Rodez, qui a fait construire donc à la fin du XVIe siècle ce clocher, alors qu'il a fait reconstruire parce qu'il avait été incendié plusieurs fois. J'aime bien amener le groupe tout de suite, quand on rentre dans la cathédrale, j'aime bien les amener à droite.
Alors on y va.
Dans la première chapelle. Parce que dans cette chapelle, il y a le baptistère. Et finalement, c'est ce qui nous ramène à la source de notre foi, notre baptême. Voilà, ce baptistère surmonté, baptistère en pierre, hein, qui n'est plus trop utilisé malheureusement, hein, puisque les baptêmes se font plutôt dans le cœur. Mais quand même, on a assisté à quelques baptêmes, par immersion notamment. Voilà, donc on commence ici à se rappeler ce qui fonde notre foi. Et tout de suite après, je me dis, mais à l'opposé, à côté du jubé, ce jubé qui a été déplacé après le Concile de Trente, hein, il fermait le grand chœur, il fermait les stalles. Après le Concile de Trente, on a déplacé le jubé pour ouvrir ce grand chœur. Ce qui fait que le jubé se retrouve aujourd'hui, de manière tout à fait artificielle, à l'opposé de l'orgue qui surplombe le portail nord. Et après l'eau du baptême, j'aime bien venir dans ce coin, cette petite chapelle, qui nous permet d'avoir quasiment en vis-à-vis, quand on se met ici, deux scènes. L'Annonciation. Alors c'est une copie d'une statue qui se trouve à l'église d'Ignières, une petite église fortifiée à quelques 12 km de Rodez. Marie est là en prière, elle est agenouillée, les mains jointes, elle reçoit l'ange qui vient lui annoncer l'histoire qu'on connaît. Et ce qui me semble important, c'est la présence du livre de la parole, juste à côté de Marie. On vient de parler de l'eau du baptême, la parole, la source, deuxième source. Le début finalement de la vie chrétienne, l'Annonciation. Et si on se tourne sans bouger, on aperçoit là-bas entre deux piliers un bas-relief. Un bas-relief, c'est la mise au tombeau. Alors on va s'approcher un petit peu. L'eau du baptême, l'Annonciation, la parole, et puis ce Christ qui nous prépare à sa résurrection, ce Christ sur le tombeau avec tous les personnages qui l'entourent, les saintes femmes, Marie,
Joseph
d'Arimathie, Nicodème, les anges, les instruments de la torture, la croix, les instruments de torture, des visages finalement assez, j'ai envie d'employer le mot serein.
Oui, exactement, c'est exactement le terme que j'aurais employé.
C'est paisible.
Oui.
C'est pas une mort affligeante, non. C'est une mort d'espérance.
Ils sont dans l'espérance. Ouais.
Et après, on peut continuer la visite de la cathédrale.
Et on y va. Alors là, on vient d'entrer donc, dans le cœur des chanoines, c'est ça ?
On vient d'entrer dans le cœur des chanoines, dans le grand cœur de la cathédrale, orienté vers l'Orient, avec l'emplacement de l'ancienne cathèdre, évidemment. Et puis ces stalles du XVe siècle, ces stalles qui montrent que la vie religieuse à cette époque-là était quand même très florissante. Donc cet espace était vraiment réservé au clergé et aux chanoines.
Mais bon, c'est un mercredi matin du mois de septembre. Il est un peu plus vers 9h30. Il y a déjà du monde, des touristes, alors des pèlerins qui déambulent, qui s'assoient et qui rentrent dans cette cathédrale.
Il y a peut-être ceux qui sont venus à la messe à 8h30, oui, qui s'attardent. Ceux qui traversent la cathédrale parce qu'ils vont marcher. Ceux qui vont à leur travail. La cathédrale, c'est la rue la plus empruntée de Rodez. On a parlé de maison de vie avec d'autres prêtres. La cathédrale, c'est aussi un lieu de vie. Et le père Barrier, qui était curé de la cathédrale il y a encore quelques années, a décidé qu'il fallait que cette cathédrale soit habitée en permanence. Donc aux heures d'ouverture, on a une présence, un sacristain, c'est un monsieur qui est en emploi aidé, qui est en réinsertion et qui a certaines fragilités. Et il lui a été confié, le père Barrier a misé sur lui en disant ben, « Non, on va lui faire confiance. » Donc Xavier est là, il n'est pas franchement sacristain, il s'occupe de l'entretien, il s'occupe de vérifier qu'il n'y a pas de souci dans la cathédrale, il s'occupe parfois d'ouvrir, de fermer, d'allumer la lumière. Et surtout, il est une présence pour les personnes qui passent. Ouais, on n'a pas d'accueil dans cette cathédrale, malheureusement, je dirais. Il n'y a pas de boutique dans cette cathédrale, on n'est pas... Mais il y a Xavier.
Avant de quitter la cathédrale, nous rencontrons son curé, son prêtre référent, le père Jean-Claude Lazuèche. La cathédrale, vieille de plus de 700 ans, est également, dans l'esprit du synode, une toute nouvelle maison de vie.
Donc, c'est une maison de vie dans le sens que c'est vraiment le lieu de rassemblement de l'église diocésaine. Tous les grands rassemblements du diocèse se passent ici. Et la cathédrale est aussi une église donc, qui sert pour la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Cette paroisse qui correspond à la ville de Rodez plus deux villages autour, le monastère et la Mouline. Et c'est une des églises de la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Cette paroisse qui... on a repris le nom pour l'intitulé de cette paroisse. On a pris le nom de la cathédrale puisque c'est la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption.
Alors, ce matin, la messe vient d'être célébrée. C'était dans une crypte.
Ce n'est pas une crypte. C'est la chapelle de Filandrier. C'était le secrétaire d'un évêque de Rodez du XVIe siècle, le cardinal d'Armagnac. Et donc, c'est lui qui a donné le nom de. Enfin, qui c'est le constructeur de cette chapelle, Filandrier, certain Filandrier. Mmh. Donc c'est une très belle chapelle qui sert donc pour les messes en semaine et qui sert aussi pour la messe du dimanche soir à la cathédrale à 18h30. Une messe qui rassemble une belle petite communauté. Les gens qui viennent à la messe le dimanche soir sont souvent des gens extrêmement motivés.
Au cours des années précédentes, il y a 2 ans, vous êtes mis en marche à la suite de Mgr Fonlup dans ce cheminement du synode. C'est une nouvelle façon d'être en église, de oui, faire église, de vivre l'évangile et de vivre de l'évangile.
Il me semble le synode, ça veut dire marcher ensemble. Donc c'est entraîner le peuple de Dieu dans un travail en fait de conversion, de retour à l'évangile, vivre l'évangile. Et prendre, j'allais dire, les décisions, les orientations pastorales d'une communauté ici, tous ensemble. Nous avons le projet, dans quelques semaines, donc d'un rassemblement paroissial où on va se donner les orientations pour l'année à venir, pour la paroisse Notre-Dame de l'Assomption. Ces orientations, elles ont été travaillées par le conseil pastoral. Et c'est l'équipe d'animation paroissiale, l'EAP, qui va les proclamer, ces orientations, les donner à l'ensemble des membres de notre communauté paroissiale. Alors, ben, je peux dire un mot peut-être de ces orientations. Alors d'abord, on a envie de mettre l'accent sur l'accueil dans les célébrations dominicales. Qu'il y ait une équipe d'accueil pour rendre nos assemblées plus fraternelles, travailler à les rendre plus fraternelles, moins informelles. Parce que ici, par exemple, c'est une église tellement vaste que c'est parfois difficile de faire communauté. Et donc, d'où la nécessité de travailler à rendre notre assemblée plus communautaire, plus fraternelle.
C'est vrai qu'on peut se trouver perdu ou être derrière un pilier,
oui,
et se sentir peut-être isolé.
Oui. Alors, mais il y a eu beaucoup de progrès. Vous savez, ici, il y a 40 ans, il y avait des messes qui se succédaient chaque heure. Et donc, tout le travail, ça a été de rassembler des gens qui viennent un peu de partout. Et je trouve que nous avons réussi, enfin mes prédécesseurs, les prêtres qui étaient avant moi, ont fait un travail remarquable.
Donc là, c'était l'accueil, et ensuite il y a
d'autres
orientations.
Alors, l'accueil, donc sa première orientation. Ensuite, nous avons, en lien avec les orientations diocésaines, on a beaucoup mis l'accent sur la nécessité pour notre communauté paroissiale de se former. Il y a un parcours qui s'appelle le parcours Théophile, qui est proposé par le diocèse. Et donc, nous invitons le maximum de personnes de la communauté à rejoindre cette formation. Donc, c'est 5 journées sur l'année 2018-2019. Et je pense qu'il va y avoir une trentaine de personnes qui accepteront de suivre cette formation. Ensuite, comme autre orientation, nous désirons mettre l'accent sur justement la place de la maison paroissiale. Nous avons la chance d'avoir un presbytère en centre-ville, vraiment au cœur de la cité, mais il faut transformer ce presbytère qui était jusque-là la maison des prêtres en maison paroissiale. Alors on a un projet de grands travaux. Donc où tout le rez-de-chaussée de cette très belle maison sera transformé en lieu d'accueil, où il y aura des salles pour que les chrétiens puissent se retrouver, et le logement des prêtres sera à l'étage.
Dans une proximité tout de même. Ouais.
Toujours dans une proximité, en sachant que donc, les prêtres, nous travaillons de plus en plus aujourd'hui en doyenné. J'allais dire plus que le travail, nous essayons d'initier une vie fraternelle au niveau du doyenné. Nous mangeons au moins une fois par semaine, le mercredi midi ensemble, et nous avons donc des réunions de prêtres au niveau du doyenné tous les mercredis matins.
Si vous me parliez de fraternité, il y a cette fraternité avec l'ensemble des baptisés ici, et une fraternité constructive entre vous, prêtres, pour vous épauler, pour vivre quelque chose ensemble.
C'est aujourd'hui quelque chose d'indispensable. La grande difficulté pour nous aujourd'hui, c'est le petit nombre. Nous sommes une trentaine de prêtres de moins de 75 ans, exactement je crois 37, donc au service des différentes communautés paroisses de notre diocèse. C'est indispensable, et ça a été la priorité voulue par notre évêque, de favoriser ce travail en fraternité de prêtres pour éviter l'isolement pastoral, l'isolement humain.
À ce moment-là, il faut être, il faut inventer, il faut être, faire autrement. On va pas se dire que c'est une chance, mais ça nous pousse, peut-être.
Moi, je dirais que c'est un défi. C'est un défi à relever, et nous ne le relevons pas tout seuls. Nous le relevons avec les laïcs, et en particulier avec les membres des EAP qui partagent pour un temps déterminé notre charge pastorale. Vraiment, je voudrais souligner l'importance très très bénéfique de ce travail à NEAP.
Et les réalisations et projets sont nombreux. Le Taximès, c'est la messe animée par les jeunes. La semaine prochaine, avec la visite du tout nouvel évêché, réaménagé et installé dans l'ancien Carmel, nous refermerons notre cycle de reportages à Rodez. Pourquoi ce lieu et comment ? Pour répondre à quelle nécessité d'aujourd'hui ? Et que nous dit-il de l'âme diocésaine ? Réponse, la semaine prochaine.